Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que tout se passe bien de votre côté en ce début d'après-midi. Marianne Paquette derrière le microphone pour ces 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » que vous écoutez sur Canal M. En deuxième partie de l'émission, je vous parle d'une initiative de Parkinson Québec qui lançait un petit peu plus tôt au mois de mai sa quatrième édition de ses conférences « Marcher sous la pluie ». Donc, 4 entretiens enregistrés dans différentes régions du Québec sur des sujets grandement importants. Des sujets qui sont également pertinents, parfois aussi assez pratico-pratiques dans le sens où on vit au quotidien avec ce genre de défis lorsque l'on vit avec le Parkinson et aussi pour outiller, oui, les personnes atteintes, mais les personnes aussi qui vivent proches de ces personnes. Donc, tout ce qui est lié à la prise de médicaments, à la pharmacie, également l'exercice physique, qui, on le sait, est très important pour les personnes atteintes de Parkinson, le sommeil et la recherche clinique. Et pour moi, la grande force de cette initiative, c'est que ce sont des conférences qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec. Donc, tout à fait accessible pour tout le monde, qu'on soit à mobilité réduite ou qu'on soit partout en région. Tout à l'heure, Nicole Charpentier, la directrice générale de Parkinson Québec, elle sera là pour nous en révéler davantage. Aussi, vous dire que l'été dernier, pendant mes vacances, j'ai lu un livre passionnant, fascinant, très, très bien vulgarisé, qui s'intitule « Le charme discret de l'intestin ». C'est écrit par une gastro-entérologue allemande. Elle s'appelle Julia Enders. J'espère bien le prononcer. Hein. Mon allemand n'est pas tout à fait au point. Et ça vous donne peut-être une cloche, hein, parce que je n'ai pas été la seule intéressée ou curieuse par ce sujet. En date de l'été dernier, donc été 2015, ce livre-là s'était vendu à plus de 1 million d'exemplaires et avait été traduit dans plus de 30 langues. Ce qu'on apprenait dans ce livre, c'est toute l'incidence, l'importance des bactéries que l'on retrouve dans notre flore intestinale et son rôle ou leur rôle positif à ces bactéries, flore intestinale que l'on appelle également de plus en plus microbiote. Comme je ne parle pas allemand et parce qu'il est aussi un excellent vulgarisateur, j'ai demandé à Patrick Despaquettes, microbiologiste agréé biochimiste, président de l'Association des microbiologistes du Québec, de venir nous en parler davantage de ce microbiote. Allô, Patrick.
Bonjour.
Il me semble que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas passé par nos studios. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Ça
fait plaisir.
Patrick, bon, je parlais de ce livre de Julia Enders, mais il y a l'émission Découverte qui a fait un reportage sur le microbiote, les magazines L'Actualité, Québec Science, j'en passe. Il y a un buzz, comme on pourrait dire, autour du microbiote. Pourquoi on en parle autant? J'ai l'impression depuis quelques années.
Mais en fait, c'est qu'on commence à mieux comprendre le rôle des micro-organismes qui se retrouvent sur notre corps et dans notre corps. Parce que c'est ça, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries, virus, levures, protozoaires, donc tous les micro-organismes qu'on héberge qui ont finalement un impact sur notre santé, qui peuvent avoir un impact sur certaines maladies. Et ça, on commence à peine à découvrir la pointe de l'iceberg.
Pourquoi on utilise moins le terme flore intestinale? Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
Mais en fait, le terme flore intestinale vient surtout des premiers scientifiques qui ont découvert les micro-organismes. À l'époque, ils pensaient que c'était des petites plantes microscopiques. Et donc, pensant que c'était des plantes, ils leur ont donné le nom de la flore.
Ah.
Mais maintenant, avec les années, on a découvert que c'était pas des plantes, que c'était des organismes à part entière. Puis le terme microbiote s'est imposé de soi, considérant qu'on va parler d'un biote comme étant un ensemble d'organismes qui vivent dans un ensemble, dans un habitat.
Ah, oui,
et donc,
okay.
Quand on parle du microbiote, c'est comme le petit biote, donc tous les micro-organismes qui vivent sur nous et en nous.
Parlons-en de ces micro-organismes-là. Il y en a à peu près combien dans notre corps?
Je vous dirais qu'il y en a environ 100 000 milliards de bactéries. Donc, c'est quand même énorme. Ça correspond à peu près à 2,2 kilos. Donc, de notre masse corporelle qui est de micro-organismes. Là-dessus, on a identifié environ entre 1000 et 1500 espèces bactériennes différentes à travers les individus des différentes populations. Mais je vous dirais qu'en général, une personne va héberger environ 160 espèces bactériennes différentes, principalement dans son microbiote intestinal.
OK. Est-ce qu'entre chaque humain, on partage ces mêmes espèces? Est-ce que je partage les mêmes espèces qu'une fille de mon âge qui vit en Afrique, par exemple?
On partage les mêmes espèces, mais je vous dirais qu'il y a environ 2/3 des espèces qui sont variables chez 90 % de la population. Donc, on peut établir que notre microbiote est à proprement parler un peu nos empreintes digitales microbiennes.
Ouais.
Et donc, même si on des gens d'un même groupe d'âge, des gens de différentes nationalités, différentes cultures, vont avoir des microbiotes qui sont passablement différents.
Donc, on est unique de par notre microbiote.
Oui, le microbiote est le reflet de qui nous sommes.
Wow. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi? Bon, on comprend, ce sont des milliards de micro-organismes, levures, bactéries, virus, que l'on abrite là, dans notre corps. Mais encore, bon, on sait qu'on en a dans notre intestin, il y en a ailleurs aussi.
Oui, il y en a sur la peau, on en retrouve dans la bouche, on en retrouve dans les voies respiratoires. Chez les femmes, on en retrouve au niveau de la muqueuse vaginale. Mais le microbiote intestinal est certainement celui qui est le plus diversifié et le plus abondant chez l'être humain.
Ouais. Et qui a un impact sur notre santé et sur nos maladies aussi. On va y revenir, mais d'une part, premièrement, comment ça se forme, un microbiote?
Mais le microbiote, il se forme au gré du temps. À partir du moment que l'enfant va venir au monde, en fonction de son alimentation, au départ, dépendamment s'il vient au monde par voie vaginale ou par césarienne, ça va conditionner le microbiote. Les enfants qui viennent au monde de voie vaginale, on va retrouver davantage de ce type de micro-organismes-là dans leur microbiote comparativement aux enfants qui viennent au monde par césarienne, où là, on va retrouver un microbiote qui est plus lié à la peau de la mère, un microbiote cutané.
Ouais, ouais.
Puis par la suite, bien, je vous dirais que c'est surtout notre hérédité qui va conditionner notre microbiote, parce que notre hérédité définit qui nous sommes et donc pour qui, quelle bactérie va s'intéresser à nous d'une certaine façon.
Ouais, ouais, ouais.
Et ultimement, notre alimentation, là, qui est le principal facteur qui conditionne notre microbiote.
Mais j'imagine aussi l'endroit où l'on vit, si on vit sur une ferme, si on vit en ville, si je reviens avec cet exemple de l'Afrique, ça aussi, ça doit avoir une incidence.
Oui, l'environnement dans lequel on se retrouve, je voudrais le stress auquel on est exposé, les médicaments qu'on va consommer, si on subit des interventions médicales, les infections, notre âge, notre état de santé, notre hérédité, c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire qu'on ait un terrain propice pour telle et telle bactérie, alors que notre voisin va être un terrain propice pour d'autres bactéries différentes.
Oui. Bon, on parle de ces bactéries qu'on comprend bien. Elles sont nos amies, ces bactéries-là. Mais qu'est-ce qui fait que parfois on peut tomber malade? Est-ce qu'il y en a qui sont moins bonnes pour nous?
Mais le secret pour rester en santé, surtout à ce niveau-là, c'est d'avoir un microbiote qui va être diversifié, qui va être abondant et qui va être riche. À partir du moment qu'on perd cette diversité-là, il peut y avoir différents facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte, dont entre autres la prise d'antibiotiques.
Ouais.
On va tomber ce qu'on appelle dans un état de dysbiose, donc de déséquilibre de notre microbiote intestinal, j'allais dire flore, mais de notre microbiote.
Ouais.
Et à partir du moment où le microbiote est déséquilibré, il remplit moins bien ses rôles. Et c'est là que, comme vous parliez au début de l'émission, qu'au niveau de la science, de la médecine, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de liens entre certaines maladies pour lesquelles on avait de la difficulté à comprendre d'où ça pouvait provenir. Et on se rend compte maintenant qu'on est peut-être plus en lien avec un microbiote qui est déstabilisé, donc qui est en dysbiose.
Oui, parce que si on prend l'exemple des antibiotiques, ça tue certaines bactéries qui pourraient être nos amies.
Oui.
Est-ce que ça peut se renouveler après?
Le microbiote se renouvelle. Ça prend un certain temps. Je vous dirais que c'est souvent quelques semaines, quelques mois que ça va prendre à ramener l'équilibre, ce qu'on appelle la résilience du microbiote, donc sa capacité à retrouver son état d'origine. Mais encore là, d'un individu à l'autre, il peut avoir beaucoup de variations.
Oui. Parlons-en de ce rôle que joue le microbiote dans notre santé, dans notre organisme, et ce, tout au cours de la vie. Bon, je sais qu'il a ce rôle de discuter avec notre cerveau, entre autres choses.
Entre autres choses, oui. Mais en fait, comme je vous disais, les bactéries qui sont présentes représentent, par rapport à nos gènes, il y a 150 fois plus de gènes bactériens dans notre corps qui correspondent à l'ensemble des bactéries que de gènes humains. Et tous ces gènes-là codent pour des molécules qui se retrouvent ultimement dans le microbiote au niveau de la flore, au niveau de l'intestin, et qui peuvent traverser dans le sang et là se distribuer dans le corps. Et là, les liens qu'on est en train de faire, c'est de se dire, les molécules qui sont produites par ces micro-organismes-là, s'ils se retrouvent dans mon sang puis ils vont jusqu'à mon cerveau, est-ce que rendus là-bas, ils peuvent avoir un impact? Est-ce qu'il y a une maladie ou une condition qui peut être liée à ça? Ou si c'est seulement comme le fruit du hasard?
Oui, oui. Elles se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de quoi, ces micro-organismes?
De l'ensemble des aliments que nous, on va consommer. Donc, c'est nous qu'on les nourrit. Puis encore là, dépendamment si on a une diète qui est plus de type végétarienne, une diète qui est plus de type carnivore, une diète qui est plus axée de type fast-food, bien, on va venir changer la composition de notre microbiote parce qu'il y a certaines bactéries qui, à défaut d'avoir les aliments qu'elles ont envie de consommer, vont décider de nous quitter.
Et il y en a
d'autres qui vont être très friandes de l'alimentation qu'on leur donne, donc ils vont avoir tendance à prendre de l'espace.
Oui, comme le sucre, par exemple.
Entre autres.
Oui. Et de là, l'importance de varier son alimentation.
L'importance de varier ça. Les nutritionnistes nous le disent depuis plusieurs années. Mangeons variés, mangeons des légumes de différentes couleurs, varions nos sources de nutriments, nos sources de protéines. Mais tout ça, au final, c'est ce à quoi on expose notre microbiote. Et en ayant une alimentation qui est variée, on s'assure d'avoir un microbiote qui est bien diversifié aussi.
Ce qui assure notre santé
à long terme. Ce qui assure notre santé, oui.
Lorsque survient une gastro ou peut-être de façon plus grave, E. coli ou ce type de maladie-là, qu'est-ce qui arrive dans notre système? Parce que ça aussi, ça touche notre microbiote et nos micro-organismes.
Mais en fait, quand on contracte une infection puis qu'on a un terrain propice à développer cette infection-là, c'est qu'il y a une bactérie qui ne devrait pas, en l'occurrence E. coli ou salmonelle ou quelconque bactérie pathogène, qui ne devrait pas être là, qui a trouvé l'opportunité de venir s'installer, de se multiplier et là d'avoir un effet qui va être négatif. Donc, d'une part, notre corps va chercher à rétablir l'équilibre. On va avoir une réponse immunitaire qui va essayer d'endiguer l'infection. Notre microbiote intestinal va être en compétition contre cet intrus-là qu'on cherche à évincer. Ultimement, on peut avoir besoin de prendre des antibiotiques, mais c'est que notre corps va mettre en place une série de mécanismes pour retrouver l'équilibre qui était favorable à un bon état de santé.
Est-ce, si je comprends bien, vous me corrigez si je me trompe, Patrick, deux personnes sont dans un environnement où ils peuvent contracter E. coli, par exemple. L'un ne va pas le développer parce qu'il a les micro-organismes pour se défendre et l'autre pourrait l'attraper parce que c'est pas le cas?
D'une part, et aussi d'autre part, si la personne a déjà une immunité, parce que sa mémoire immunitaire va rentrer en ligne de compte, si la personne elle est déjà immunisée contre cette bactérie-là, elle va mieux s'en protéger qu'une personne qui ne le serait pas. Mais oui, effectivement, le microbiote, une de ses fonctions, c'est de prévenir la colonisation par des bactéries qui sont pathogènes. Et donc, à ce moment-là, va être un des acteurs qui assure une protection plus complète de notre corps.
Parce qu'elles peuvent se reconnaître entre elles et dire « Ah non, toi, t'es méchante, t'es pas dans notre gang. »
Oui, d'une certaine façon, oui, on pourrait voir ça comme ça.
Je veux revenir à cette discussion que le microbiote peut entretenir avec notre cerveau et qui peut avoir un impact sur certaines maladies, entre autres neurodégénératives. Mais on parle aussi de d'autres types de maladies, obésité, autisme aussi. On est en train de découvrir qu'un microbiote moins en santé pourrait être responsable de ce genre de maladie.
Oui, effectivement. Puis ce qu'on observe surtout, parce que là, on est au niveau de la science, on est encore à l'étape des corrélations. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on prend des gens qui sont obèses versus des gens qui sont minces, donc qui ont un poids santé, la composition microbienne n'est pas la même. Quand on regarde des gens qui souffrent d'autisme versus la population contrôle, les gens qui souffrent d'autisme ont une variété de micro-organismes qui est différente et ainsi de suite. On retrouve ça au niveau de l'obésité, du diabète, les gens qui souffrent de syndrome métabolique, les maladies inflammatoires de l'intestin, maladies de Crohn, colite ulcéreuse, maladies de cœliaque. Donc, c'est tout des groupes de personnes qui souffrent d'une maladie où on se rend compte que le microbiote est différent. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la maladie, de par ses effets, qui a sélectionné des nouveaux micro-organismes?
Ah ouais.
Ou est-ce que c'est parce que ces micro-organismes-là étaient présents que ça a donné un terrain fertile à la maladie? Donc, je vous dirais que dans l'état de la science où elle est aujourd'hui, c'est qu'on voit une corrélation, mais on cherche à comprendre s'il y a vraiment un lien causal entre les deux. Puis si je peux me permettre de donner un exemple là, à nos auditeurs pour bien comprendre le lien causal, j'avais un prof d'épidémiologie qui a déjà donné comme exemple qu'en France, entre 1990 et 2000, il y a eu une diminution du taux de natalité. Mais parallèlement, on a observé aussi une diminution des populations de cigognes. Et donc, quand on compare les deux effets, on se rend compte, il y a moins d'enfants, puis parallèlement, il y a moins de cigognes. Mais là, je vous laisse le soin de réfléchir, à savoir est-ce qu'il y a vraiment un lien de causalité? C'est-tu parce qu'il y avait vraiment moins de cigognes qu'il y a moins d'enfants? donc, c'est un peu à ce niveau-là qu'on se retrouve. On voit la différence, mais on cherche à comprendre y a-tu vraiment un lien ou si c'est le fruit du hasard. Mais je vous dirais que les recherches présentement tentent de plus en plus de prouver le lien causal, mais on est encore au tout début de cette science-là qui est en effervescence. Ouais.
Toutes ces questions qui sont posées par des scientifiques à travers le monde parce que le microbiote, ça intéresse les chercheurs de partout. Comment ça va changer notre façon de pratiquer la médecine et de faire de la recherche aussi?
Mais au niveau de la médecine, ce qu'on en comprend, c'est que quand on prend un médicament, le médicament, avant de se retrouver dans notre sang, passe par notre intestin, donc passe par les bactéries de l'intestin. Et il y a certaines bactéries qui vont avoir tendance à dégrader un médicament. Il y en a qui vont avoir tendance à le désactiver, d'autres qui vont le dégrader et ça va produire un composé qui est toxique. Et là, c'est toute la base de la médecine personnalisée où on se rend compte que quand on parle à des gens qui disent « Ah, non, moi, la dose n'était pas suffisante, il faut l'augmenter » ou « Ah non, moi, je suis pas du tout réceptif à ce médicament-là », on commence à se demander est-ce que c'est vraiment le patient qui n'était pas réceptif ou si c'est pas son microbiote qui, dans notre dos, est venu désactiver la molécule parce qu'elle ressemblait peut-être au niveau chimique à un nutriment ou à une autre molécule qui est intéressante pour notre microbiote. Et donc, si on comprend mieux ça, bien, ça va peut-être nous amener à avoir des traitements qui sont plus personnalisés où on dit « Madame une telle, vous avez tel type de microbiote, donc je vais vous donner des médicaments qui sont compatibles alors que votre mari a une autre type de microbiote, je vais lui donner d'autres médicaments qui sont compatibles avec ce microbiote-là et qui vont peut-être traiter le même trouble de santé.
Je lisais, Patrick, un chercheur qui disait peut-être, il rêvait, là, bien sûr, on est loin de ça, mais que peut-être éventuellement, on pourrait avoir des prises de microbiote comme on a des prises de sang, des analyses sanguines.
Oui, puis même, j'ai vu aussi des sujets de recherche où on se disait que de plus en plus que le microbiote pourrait peut-être servir à identifier les gens, à quel point, un peu comme nos empreintes digitales, notre ADN, à quel point il est unique puis à quel point il est singulier à chaque individu. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là là, que aussi il y a certaines recherches qui évoluent.
On pourrait faire un lien aussi avec l'espèce de greffe, là, c'est peut-être pas le bon terme, de matière fécale pour le traitement de cancer du côlon. On commence à voir ça aussi.
Ou surtout d'infections assez difficiles, ou ce qu'on appelle la transplantation fécale, parce qu'il faut savoir que l'infection assez difficile va se développer principalement chez des patients hospitalisés qui ont reçu des antibiotiques, que la flore bactérienne est altérée, terrain propice pour l'infection assez difficile. Et souvent, il y a des infections qui sont récurrentes parce que une fois que la bactérie est là, elle est difficile, elle n'a pas envie de partir.
Ouais.
Et on se dit que si on prend le microbiote d'une personne qui est en santé et qu'on le transfère dans celle qui est malade, bien peut-être que l'ensemble de ces bactéries-là, en travaillant ensemble, vont être capables de venir à bout de l'infection. Donc, c'est une une des alternatives.
En terminant, comment on s'assure d'un microbiote en santé? On l'a dit tout à l'heure, alimentation variée. Est-ce qu'il y a d'autres façons?
Je vous dirais bonne hygiène de vie, s'assurer d'avoir le sommeil, bien manger, faire de l'activité physique. Donc, tout ce qui nous rend en santé notre corps, bien, va rendre en santé la flore, bien, le microbiote qui y vit.
Oui. Tout à l'heure, je parlais de ce livre de Goulian Enders. Est-ce que vous en avez, vous, des lectures, Patrick, en ce sens-là, ou c'est un petit peu trop hermétique, là, nous qui ne sommes pas microbiologistes?
Bien, je vous dirais que pour l'instant, c'est surtout des publications scientifiques là, qu'on... que j'ai comme lecture de chevet, mais j'ai pas de doute que, comme vous soulignez, là, des livres qui sont vulgarisés de bonne qualité puis qui vont donner vraiment des renseignements. Mais pour l'instant, au niveau de la science, considérant qu'on essaye encore de comprendre, éventuellement, je suis convaincu qu'on va en arriver avec une littérature qui va être plus accessible puis surtout qui va aider les gens à changer leurs habitudes de vie pour le mieux.
Ouais, tout ça est fascinant. Je vous le recommande, en tout cas, lecture d'été, mais peut-être que vous trouveriez ça un petit peu trop facile. Patrick Despaquettes, je le rappelle, vous êtes microbiologiste agréé biochimiste et président de l'Association des microbiologistes du Québec. Toujours un plaisir de vous parler.
Fait plaisir. Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Charpentier, bonjour.
Bonjour.
Très heureuse de vous parler aujourd'hui pour parler de cette quatrième édition des conférences Marché sous la pluie. Je le disais tout à l'heure en introduction, Nicole, je trouve que c'est une initiative formidable parce qu'elle rend accessible l'information aux gens atteints de cette maladie, à leurs proches aussi, et ce, partout au Québec, et peu importe leur situation, s'ils sont à mobilité réduite ou pas. Est-ce que c'était ça un petit peu l'objectif de ces conférences?
Tout à fait. C'est quatre conférences qu'on tourne chaque année avec comme objectif d'offrir de l'information de qualité à toutes les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, à leurs proches, mais aussi de rendre accessible ce type de conférences-là, donner accès aux instances régionales qui organisent des groupes de soutien, des groupes d'entraide pour qu'eux aussi puissent gratuitement offrir de l'information avec des conférenciers de renom dans les régions plus éloignées du Québec.
Oui, c'est la quatrième édition. Il y a justement des experts, des spécialistes de la santé qui sont formidables à travers ces conférences. Vous avez choisi quatre sujets pour cette quatrième édition. Pourquoi ces sujets en particulier?
Bien, c'est souvent des thèmes qui nous sont proposés par nos membres, par les organismes régionaux ou par les participants qui sont présents à nos formations ou à nos conférences. C'est des thèmes qui sont proches des préoccupations des gens qui vivent avec la maladie ou des proches aidants. Alors, c'est ce qui détermine année après année le choix des contenus.
Donc, cette année, tout ce qui est lié à la pharmacie, à la prise de médicaments, l'exercice physique, le sommeil et la recherche clinique. Ces experts que vous sollicitez, en plus, ils sont de bons vulgarisateurs. Vous les choisissez de quelle façon, Nicole?
On a la chance, à travers notre réseau, d'avoir tissé des liens étroits avec toutes sortes de personnes, soit des professionnels de la santé, des chercheurs, des cliniciens, des gens qui vivent à proximité dans les communautés de gens qui vivent avec la maladie de Parkinson. Alors, c'est de cette façon-là, tout simplement, qu'on arrive à trouver, à dénicher ces perles rares de conférenciers.
Oui, c'est une façon aussi, j'imagine, de mettre l'accent sur certains enjeux qui sont liés en ce moment à cette maladie. Quels sont-ils, ces enjeux-là?
Bien, il y en a un que vous avez mentionné au niveau de la prise de la médication. Là. C'est pour ça aussi qu'on a choisi un des thèmes qui est le Parkinson et le pharmacien. La prise de médication est extrêmement importante. L'heure fixe et l'assiduité dans la prise de la médication va faire toute la différence dans la qualité de vie de la personne qui vit avec la maladie de Parkinson. Il y a toutes sortes de molécules qui existent et on peut faire des cocktails de tout ça et on trouvait ça important important que les gens qui vivent avec la maladie soient bien outillés en regard de cet aspect-là. Et c'est quelque chose qui est récurrent dans leurs propos, dans leurs questions, dans leurs préoccupations.
Oui. Et en même temps, il est vrai que l'on entend parler de plus en plus de l'impact de l'activité physique. Donc, vous avez pris aussi l'opportunité d'en parler et de la recherche, hein, parce que on le sait, il n'y a pas de remède à cette maladie. Donc, on a toujours l'œil là-dessus sur cette recherche clinique qui est primordiale en ce qui a trait à la maladie de Parkinson.
Exactement. Les gens qui vivent avec la maladie, leurs proches sont très intéressés à contribuer à la recherche et une des façons de contribuer, c'est en participant à des projets de recherche.
Oui.
Mais parfois, on a certains préjugés ou compréhensions erronées ou même avec justesse, on s'est fait dire des choses par rapport au projet de recherche. Donc, le terme de la recherche, comment ça fonctionne un essai clinique, les étapes et tout ça, c'est quelque chose qu'on trouvait important de rendre accessible et de démystifier auprès des gens qui ont la maladie.
Mm-hmm.
En regard des exercices, on sait que c'est une des données les plus robustes au niveau des connaissances qu'on a à ce jour. C'est pratiquement équivalent, c'est qu'on considère l'exercice comme un adjudant thérapeutique, un complément à la médication essentielle pour les gens qui ont le Parkinson. Et on n'en parlera jamais assez, même si tout le monde a avantage à faire de l'exercice, les gens qui vivent avec le Parkinson au quotidien, ça va faire toute une différence s'ils arrivent à intégrer ça dans leur routine de vie.
Mm-hmm. L'initiative Marcher sous la pluie, j'ai l'impression aussi que c'est une façon de sensibiliser le grand public, d'amener de la visibilité à la cause. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers ces 4 années, ça vous a servi?
Ah oui, parce que en fait notre site internet est devenu un moyen de communication avec les gens qui vivent avec la maladie, mais aussi les gens qui ont la communauté ou la population en général.
Oui.
Et ces conférences-là donne accès à monsieur, madame, tout le monde, à de l'information sur la maladie de Parkinson de tout ordre, donc nous rapproche du grand public.
Oui, et ça, c'est assez précieux.
Oui.
Nicole, je veux pas vous laisser filer sans vous parler de cette nouvelle association. On en apprenait davantage en début de semaine. Donc, deux nouveaux ambassadeurs pour Parkinson Québec, Kim Rusk et Patrick Zabé. Pourquoi être allé chercher ces deux personnes?
En fait, on a eu le privilège d'être approchés par eux.
Ah oui?
Tout à fait. C'est ça. Leur souhait était, Monsieur Patrick Zabé, comme vous le savez, a dévoilé qu'il vit avec la maladie de Parkinson depuis un certain nombre d'années. Et son souhait était de profiter des diverses activités médiatiques associées au lancement de son album pour en parler, dévoiler cette situation-là, mais aussi pouvoir faire profiter toutes les personnes qui peuvent vivre avec cette même réalité. De sa façon de vivre avec la maladie. Il incarne bien la victoire sur le quotidien
oui.
d'une maladie qui met chacun des petits gestes du quotidien au défi. Alors, c'est sous cet angle-là qu'ils nous ont approchés. Et nous, on trouvait que leur contribution était vraiment bien en ligne avec notre axe de communication qui est le pouvoir
oui.
d'agir, qui est de se donner les moyens de prendre le contrôle sur cette maladie-là et d'arriver à vivre au quotidien d'une façon pratiquement normale, mais en tenant compte
oui.
des enjeux que ça peut engendrer.
Nicole, on guidera les gens vers parkinsonquebec.ca pour avoir accès aux conférences Marcher sur la pluie, 4e édition, mais aussi aux autres éditions parce qu'elles sont encore là, ces conférences très outillantes. Nicole Charpentier, directrice générale de Parkinson Québec, merci beaucoup, toujours un plaisir.
Ça me fait plaisir, merci, au revoir.
Au revoir. C'est Jean-Sébastien de la Liberté derrière sa console, Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.